Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le dernier dimanche après la Pentecôte, fin de l'année liturgique, et dès dimanche prochain, l'Église nous demandera de rentrer dans une nouvelle année liturgique, avec le premier dimanche de l'Avent et la préparation de la fête de Noël. Et pour comprendre l'esprit de l'Église, pour bien l'installer dans notre cœur, il nous faut, je vous l'ai dit souvent, utiliser les pères de l'Église, mais il faut aussi utiliser les textes de l'Ancien Testament qui sont soumis à notre méditation dans le bréviaire du prêtre. Et en ce moment, nous avons au bréviaire le texte du prophète Daniel, un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Le bon Dieu avait donné à cet hébreu des grâces particulières pour lire dans les âmes. Et il va être capable, de par ces grâces extraordinaires qu'il avait reçues du bon Dieu, de lire dans l'âme du roi Nabucodonosor, puis ensuite de son fils Balthazar. Et il nous faut étudier un petit peu ces songes, ces histoires un peu bizarres qui sont arrivées à Balthazar et à Nabucodonosor, parce que ces histoires représentent exactement ce qui nous arrive à nous. Et donc les explications données par le prophète Daniel à Nabucodonosor, puis à Balthazar, son fils, sont aussi des explications pour chacun d'entre nous. En fait, pour nous aider à méditer les textes du Nouveau Testament, qui sont utilisés à la fin de l'année liturgique, au début de l'année liturgique nouvelle, sont des textes qui tournent tous autour de la fin du temps, le bon Dieu nous demande justement de pratiquer d'abord une vertu, la vertu d'humilité. L'orgueil empêche de se préparer à apparaître devant le bon Dieu le jour de notre jugement particulier et de nouveau au jugement général. Donc la vertu d'humilité est une vertu fondamentale et c'est ce que va nous faire comprendre le prophète Daniel. Daniel avertit d'abord, c'est au chapitre 2, verset 21, que c'est Dieu qui change les temps et les âges, qui transfère, qui établit les royaumes, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Sous-entendu, ceux qui n'ont pas l'intelligence ne reçoivent aucune lumière du bon Dieu. Cette intelligence, c'est quoi? Cette intelligence, en fait, c'est l'humilité. Cette intelligence qui nous fait comprendre que c'est le bon Dieu qui fait tout. Nous ne sommes que des petites marionnettes, littéralement, entre ses mains, bien que bon Dieu respecte notre libre arbitre. Alors, voyons un petit peu ces deux songes. D'abord, du roi Nabucodonosor, donc, qui était le roi de Babylone. Voilà le premier songe. Daniel 2, verset 31. « Au roi, tu regardais, et voici qu'une statue immense t'apparut. Cette statue, grande et extraordinairement élevée, était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'un or très pur, la poitrine et les bras étaient d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer, une partie des pieds de fer, et l'autre d'argile. » Tu l'as regardé lorsqu'une pierre se détacha de la montagne sous la main d'aucun homme. Elle frappa la statue sur ses pieds de fer et d'argile. Elle les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or se brisèrent ensemble et devinrent comme la menue paille d'une aire en été. Le vent les emporta et on n'en trouva plus de traces, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est un grand docteur de l'Église, Saint Jérôme, donc, qui va nous aider à comprendre aussi un petit peu ces textes du prophète Daniel. Donc ce royaume moindre que l'empire de Babylone, c'est celui des Mèdes et des Perses. Le troisième, c'est l'empire des Grecs. Le quatrième, c'est l'empire des Romains. L'ancienne vigueur de la République romaine s'énerve sous le gouvernement des empereurs représentés par les pieds de la statue. Alors voyons maintenant le deuxième songe du roi Nabucodonosor que l'on va trouver au chapitre 4, donc un petit peu plus loin dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 8. C'est la vision d'un arbre. Un arbre grand et fort. Et sa cime atteignait le ciel. On l'apercevait jusqu'aux extrémités de toute la terre. Ses feuilles étaient très belles et ses fruits très abondants. Il portait la nourriture pour tous et celui habitait les animaux et les bêtes sauvages. Les oiseaux du ciel demeuraient sur ses branches et toute chair trouvait en lui sa nourriture. Je regardais dans la vision de mon esprit sur ma couche et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit du ciel. Il cria avec force et il dit « Abattez l'arbre, coupez ses branches, faites tomber ses feuilles et dispersez ses fruits. Que les bêtes qui sont dessous s'enfuient ainsi que les oiseaux qui sont sur ses branches. » Cependant, laissez en terre le germe de ses racines, qu'il soit lié avec une chaîne de fer et d'airain parmi les herbes des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait avec les bêtes sauvages l'herbe de la terre pour son partage. Que son cœur d'homme soit changé, et qu'on lui donne un cœur de bête, et que 7 ans passent sur lui. Voilà ce songe. Un peu bizarre, difficile à comprendre. Et c'est Daniel qui va en donner l'explication au roi Balthazar. C'est un petit peu plus loin, donc au chapitre 4 de Daniel, verset 17. Voilà l'explication qu'il donne. L'arbre, au roi que tu as vu, grand et vigoureux, dont la hauteur atteignait le ciel et qu'on apercevait sur toute la terre. Cet arbre dont les branches étaient très belles et les fruits très abondants, qui portait la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel demeuraient les oiseaux du ciel. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'au ciel et dont la puissance est étendue jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu ensuite que celui qui veille et qui est saint est descendu du ciel et qu'il a dit « Abattez cet arbre et détruisez-le. Laissez cependant en terre le germe de ses racines qui soit lié avec le fer et les reins parmi les herbes des champs, qui soit trempé par la rosée du ciel et qu'il pèse avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Et Daniel va donner l'explication. Voici l'interprétation de la sentence du Très-Haut qui a été prononcée contre mon Seigneur le Roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les animaux et les bêtes sauvages. Tu mangeras du foin comme un bœuf. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les royaumes des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Quant à l'ordre de laisser le germe des racines de l'arbre, cela signifie que ton royaume te demeurera lorsque tu auras reconnu que toute puissance vient du ciel. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, rachète tes péchés par des aumônes et tes iniquités par des œuvres de miséricorde envers les pauvres. Peut-être le Seigneur pardonnera-t-il tes fautes. Et toutes ces choses arrivèrent au roi Nabucodonosor. Cette vision étrange est une vision pour chacun d'entre nous, mes bien chers frères. Cet arbre immense, c'est l'arbre de l'orgueil. Cette statue immense, c'est la statue de l'orgueil. Et si nous ne reconnaissons pas nos péchés, si nous ne cherchons pas à racheter nos péchés par nos aumônes et nos iniquités par les œuvres de miséricorde envers les pauvres, eh bien le bon Dieu ne nous pardonnera pas. L'arbre sera coupé, jeté au feu, la statue immense sera détruite et tout s'écroulera dans notre vie parce que justement nous aurons perdu la grâce du bon Dieu. Alors, Daniel va continuer son explication et voilà ce qu'il dit au roi Nabucodonosor. Donc c'est au chapitre 5, chapitre suivant, au verset 18. Au roi, le Dieu Très-Haut donna à Nabucodonosor, ton père, le royaume, la gloire, la grandeur et l'honneur. Là, il parle à, cette fois-ci, à Balthazar, le fils de Nabucodonosor. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, Tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues le craignaient et tremblaient devant lui. Il faisait mourir ceux qu'il voulait, il frappait ceux qu'il voulait, il élevait ceux qu'il voulait, il abaissait ceux qu'il voulait. Là, il parle de Nabucodonosor, mais il s'adresse à son fils, Balthazar. Et c'est l'explication qui est donnée pour Nabucodonosor. Mais après que son cœur se fût élevé, que son esprit se fût affermi dans l'orgueil, il fut déposé de son trône royal et sa gloire lui fut enlevée. Et il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. Il mangea l'herbe des champs comme un bœuf et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Très-Haut a la puissance sur le royaume des hommes et qu'il y établit qui il lui plaît. Voyons ainsi l'incroyable humiliation que Dieu a envoyée à ce grand, ce monde, Nabucodonosor. Saint Jérôme explique que pour avoir offensé Dieu, Nabucodonosor tomba effectivement dans la démence. Il vécut 7 ans, 7 années à la manière des brutes, à la manière des animaux. Plus tard, rétabli sur le trône par un effet de la miséricorde divine, il loua et glorifia le roi du ciel, proclamant que ses voies sont la justice même et qu'il peut humilier ceux qui marchent dans les voies de l'orgueil. Alors si un païen, mes bien chers frères, un païen polythéiste, qui a nié évidemment l'existence du vrai Dieu, qui ne connaissait rien en vrai Dieu, on est dans l'Ancien Testament. Si un païen comme Nabucodonosor a su s'humilier pour reconnaître la toute-puissance de Dieu, qu'en est-il de nous, mes bien chers frères? Est-ce que nous ne sommes pas tenus, nous aussi, de reconnaître la toute-puissance de Dieu? Nous qui avons un cœur qui s'élève, mon cœur qui s'élève, mon esprit qui s'affermit dans l'orgueil, eh bien, je suis sur un trône royal parce que je suis sur le trône de l'orgueil. Eh bien, le bon Dieu va permettre que je tombe. Le bon Dieu va permettre que je tombe de ce trône royal, que je pratique la vertu. Et si je sais pratiquer la vertu d'humilité, il va me donner les grâces de lumière dont j'ai besoin pour pouvoir me relever cette fois-ci en suivant notre Seigneur Jésus-Christ et non plus en suivant l'esprit du monde. Et pour, dans le même sens, si vous voulez, le breviaire nous donne un autre texte, après, qu'on trouve aussi de Daniel, cette fois-ci au début du chapitre 5. Une histoire invraisemblable, donc une histoire vraie, qui est arrivée au roi Balthazar. Donc là, on est à la génération suivante avec le fils de Nabucodonosor. Et voilà ce que dit le texte. Le roi Balthazar fit un grand festin à 1000 des grandes sa cour et chacun buvait selon son âge. Le roi, déjà pris par le vin, ordonna qu'on apportât les vases d'or et d'argent que son père Nabucodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem afin que le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or et d'argent qui avaient été enlevés du temple de Jérusalem et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils buvaient du vin et louaient leur dieu d'or et d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Mais au même moment, au même instant, apparurent des doigts et comme la main d'un homme qui écrivait en face du candélabre sur la paroi du mur de la salle royale. Et le roi, voyant les doigts de la main qui écrivait, les doigts de la main qui écrivait. Alors le visage du roi se changea, ses pensées le troublèrent, et les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se choquaient l'un contre l'autre. Le roi cria avec force, qu'on fit venir les mages, les chaldéens et les augures, et le roi prenant la parole dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre, aura un collier d'or à son cou et sera le troisième dans mon royaume. » Donc voilà les grands du royaume de Balthazar, ils sont en train de faire une orgie d'alcool, une orgie de péché. Et voilà ces doigts mystérieux qui écrivent 3 mots sur la paroi, sous le nez du roi, dans une langue que le roi et les augures et les chaldéens ne pouvaient pas comprendre. Alors Daniel, avec la lumière du Saint-Esprit, va venir donner l'explication au roi Balthazar. Et encore une fois, C'est exactement une explication pour chacun d'entre nous, parce que nous aussi, nous avons la tentation de manger avec les gens du monde, de rester avec l'esprit des gens du monde, de tomber dans les orgies du monde moderne, justement, en suivant tous les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, en nous prenant pour Dieu nous-mêmes. Alors voilà la réponse que va donner Daniel, chapitre 5, verset 13. Daniel fut donc introduit devant le roi, et le roi lui dit: Es-tu Daniel, l'un des captifs des enfants de Juda, que le roi mon père a amené de Judée? On m'a dit de toi que tu as l'esprit des dieux, qu'il s'est trouvé en toi une science, une intelligence, une sagesse supérieure. Je viens de faire venir devant moi les sages et les mages pour lire cette écriture et pour m'en indiquer l'interprétation, et n'ont pu me dire quel est le sens des mots. On m'a dit de toi que tu peux expliquer les choses obscures et résoudre les questions embarrassées. Si donc tu peux lire cette écriture et m'en indiquer l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre et tu porteras un collier d'or à ton cou et tu seras le troisième prince dans mon royaume. Daniel, répondant à ces paroles, dit en présence du roi: Que tes présents soient à toi et donne à un autre les biens de ta maison, et je lirai néanmoins cette écriture au roi, je t'en indiquerai l'interprétation. Et voilà ce que va expliquer le prophète Daniel. Toi, Balthazar, fils de Nabucodonosor, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses, sous-entendu qui étaient arrivées à son père, qui avait perdu donc l'usage de la raison pendant 7 ans. Mais tu t'es élevé contre le dominateur du ciel. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous y avez bu du vin, toi, tes grands, tes femmes et tes concubines. En même temps, tu as loué les dieux d'argent et d'or, d'airain et de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne sentent point. Tu n'as pas glorifié Dieu qui tient dans sa main ton souffle et toutes les voix. Et c'est pourquoi il a envoyé l'extrémité de cette main qui a écrit ce qui est marqué sur la muraille. Et voici l'écriture qui a été tracée en 3 mots: Mané, Tessel, Pharès. Et voici l'interprétation de ces mots. Mané, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tessel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Pharès, ton royaume a été divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, par l'ordre du roi, Daniel fut revêtu de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il avait en puissance le troisième rang dans le royaume. Mais cette nuit même, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède lui succéda dans la royauté, étant âgé de 62 ans. Pourquoi ce texte est important, mes bien chers frères? Bien parce que cet avertissement s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Et c'est une allusion, une allégorie, si vous voulez, qui explique le jugement particulier. Le jour de notre jugement particulier, le jour de notre mort, et cela sera répété au jugement général à la fin des temps, notre âme sera placée devant Dieu, et Dieu va compter, Dieu va peser, et dans bien des cas, malheureusement, Dieu va diviser. Et donc, il nous faut, nous aussi, méditer un petit peu sur ces choses-là pour nous maintenir dans l'humilité. Si Dieu maintenant venait me chercher. Et s'il avait décidé de mettre fin à mon règne ici-bas sur la terre, et si mon âme était passée dans la balance de la justice divine, est-ce que moi aussi, je ne risquerais pas d'être trouvé trop léger, comme Balthazar a été trouvé trop léger? Quel est le poids de mon âme devant Dieu? Est-ce que mon âme est lourde de bonnes œuvres et que mon âme est lourde de foi, d'espérance ou de charité? Ou est-ce qu'au contraire, mon âme est vide, c'est-à-dire que du vent dans cette âme? Est-ce que donc je n'ai pas été trouvé trop léger? L'âme des saints est toujours lourde de bonnes œuvres, des vertus théologales, des vertus cardinales. L'âme d'un pécheur qui meurt un tas de péchés mortels est une âme qui est vide, qui va donc être emportée par le vent, parce qu'elle n'a justement aucune connexion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, Pharès. Deuxième mot, Pardon, deuxième mot, tessel, donc j'étais pesé dans la balance, je reprends parce que j'ai oublié un mot. Donc il y a trois mots, mané, tessel, pharès. Je reprends l'explication. Mané, donc Dieu compte mon règne. Ça veut dire Dieu va regarder ce que j'ai fait des grâces qu'il a mises dans mon âme. Dieu m'a donné le baptême. Dieu m'a donné toutes les grâces des enfants de Dieu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ces grâces? Dieu donc va compter mon âme. Dieu va peser mon âme. Encore une fois, si mon âme est trop légère, le bon Dieu ne pourra pas me récompenser. Et si justement je n'ai plus rien à ce moment-là, je n'ai plus rien à donner au bon Dieu parce que mon âme est vide, mes mains sont vides, mes doigts sont vides, il n'y a plus rien à donner au bon Dieu, plus rien à offrir au bon Dieu. À ce moment-là, ce sera l'application du troisième mot, Pharès, ton royaume a été divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. Et cette nuit même, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Donc le bon Dieu va appliquer ces trois mots à chacun d'entre nous, c'est ça le jugement particulier et le jugement général d'ailleurs. L'application de ces trois mots, Mané, Tessel, Pharès. Toute âme va passer devant Dieu, le bon Dieu va compter, le bon Dieu va peser, le bon Dieu, dans bien des cas, pour tous ceux qui ne sont pas en état de grâce, va diviser. Alors faisons un examen de conscience. Qu'en est-il pour moi? Pour moi, ce n'est pas trop tard, parce qu'avec la grâce du bon Dieu, je peux toujours retrouver retrouver le contact avec notre Seigneur Jésus-Christ par une bonne confession, une bonne communion. Je vous conseille beaucoup, mes bien chers frères, pendant cette semaine, de relire un peu ces magnifiques chapitres du prophète Daniel, donc tout le chapitre 2. Chapitre 4, chapitre 5 du prophète Daniel, pour nous aider à nous maintenir dans l'humilité, pour bien comprendre que sans la grâce du bon Dieu, l'arbre de mon âme sera coupé, jeté au feu. Sans la grâce du bon Dieu, la statue de mon âme sera aussi précipitée en bas, parce qu'il n'y a plus rien à donner au bon Dieu. Et si je constate que mes doigts sont vides, que mes mains sont vides, alors mes bien chers frères, utilisons cette fin d'année liturgique. Peut-être pour faire une bonne confession, rouvrir les portes de mon âme à la grâce du bon Dieu et remplir de nouveau mon âme avec les mérites qui viennent de sa passion, qui prendront justement une valeur de par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut aussi utiliser, je voudrais terminer par cela, on peut utiliser aussi les temps liturgiques en reprenant, comprendre le temps liturgique en reprenant les fêtes de certains saints de cette époque liturgique. Je voudrais reprendre un petit détail dans la vie d'une grande sainte qu'on fêtait le 15 novembre, donc il y a quelques jours, la vie de sainte Gertrude. Elle était d'une telle humilité, elle se méprisait tellement elle-même, au point de compter parmi les principaux miracles de la divine bonté le fait d'en être miséricordieusement supportée, quoique indigne pécheresse. Voilà ce que disait une sainte. Et moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Mais si sainte Gertrude se considérait comme une indigne pécheresse, comment dois-je considérer mon âme devant Dieu? Et parce que sainte Gertrude plaisait au bon Dieu, Jésus-Christ, voulant montrer le mérite de son épouse bien-aimée, déclara donc que le cœur de Gertrude était pour lui une demeure pleine de délices. Alors posez-vous la question, est-ce que mon cœur est une demeure pleine de délices? Ou est-ce qu'on cœur, au contraire, mon cœur, mon âme est comme une caverne de voleurs? Alors notre Seigneur Jésus-Christ va rentrer dans mon âme pour mettre à bas les tables et les chaises et tout ce qu'il y a dans mon âme, parce que ce ne sont pas des choses que le bon Dieu veut trouver dans mon âme. Il ne faut pas nous décourager, mes bien chers frères, mais il faut utiliser ces exemples des saints, ces exemples de Daniel, ces exemples de Sainte Gertrude, pour justement nous aider à nous maintenir dans l'humilité. Regardez l'humilité extraordinaire de la plus grande sainte de tous les temps, la Très Sainte Vierge Marie. Hein? Qu'est-ce qu'elle va dire au bon Dieu? Hein? Elle va se reconnaître comme la dernière des dernières. Elle ne va pas se vanter de ce qu'elle a fait. Elle n'a rien fait parce que tout en elle vient de Dieu. C'est le Magnificat. Mon âme magnifie le Seigneur. Alors, mes bien chers frères, demandons au bon Dieu avec grande humilité de justement savoir utiliser toutes ces choses, savoir utiliser ce temps liturgique pour que nous puissions répéter, préparer nos âmes à l'entrée du bon Dieu. Nous aussi répéter en quelque sorte ce Magnificat de la Très Sainte Vierge Marie. Elle doit nous aider à ouvrir notre cœur pour que le bon Dieu puisse mettre dans notre cœur la vertu d'humilité et enlever la vertu d'orgueil. Cette vertu d'humilité qui était de façon extraordinaire, toute brillante dans l'âme de la Très Sainte Vierge Marie. Mon âme glorifie le Seigneur. Mon esprit a tressailli d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur sa bassesse, la bassesse de sa servante, parce que voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Celui qui est puissant fait en moi de grandes choses, et son nom est saint. Sa miséricorde se répand d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras et a dispersé ceux qui s'enorgueillissent dans leurs pensées, dans les pensées de leur cœur. Il a renversé les puissants de leur trône, il a levé les humbles, il a rempli le bien les affamés, il a renvoyé les riches les mains vides. Il a relevé Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon ce qu'il avait dit à nos pères, à Abraham, à sa race pour toujours. En demandant à notre Seigneur Vierge Marie de nous aider à faire un bon examen de conscience, peut-être une bonne confession générale en cette fin d'année liturgique, avant le début de l'année suivante, l'année prochaine, donc qui commence dimanche prochain, pour que nous puissions vraiment nettoyer notre cœur et que notre Seigneur Jésus-Christ puisse vraiment y mettre l'humilité qu'il souhaite voir dans chaque âme. Parce qu'avec cette humilité, nous serons capables d'aller monter jusqu'au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.